Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook, et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute.
Plan, do, check, act.
Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité, Maud Voiron. Je lui ai proposé de réfléchir à une expression que vous avez déjà forcément entendue, « je me sens étranger à moi-même ».
Donc oui, il y a un risque. Effectivement, il y a un risque de devenir étranger à soi-même au point de devenir étranger à l'humanité.
Bonjour Maud.
Bonjour Émilie, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi.
Maud Voiron, de ton nom complet. Je vais commencer peut-être par expliquer aux auditeurs et auditrices la raison pour laquelle on va se tutoyer. On se connaît depuis presque 25 ans et on a fait aussi une partie de nos études ensemble, ici à Lyon, en philosophie. Et depuis, tu as roulé ta bosse, comme on dit, et aujourd'hui tu es philosophe spécialiste de l'éthique, on dit éthicienne, et notamment de l'éthique médicale, on dit bioéthique. Tu es d'ailleurs membre de plusieurs comités d'éthique hospitaliers et tu enseignes notamment auprès d'étudiants et d'étudiantes qui passent le concours de médecine, par exemple. J'ai tout bon ?
C'est exactement ça. Magnifique. Mon premier job dans l'enseignement, c'est pas du tout un job pour lequel j'avais postulé. C'était vraiment l'occasion, c'était le kairos, si on voulait s'exprimer comme ça. D'ailleurs, avant ça, je ne voulais pas faire d'enseignement. J'étais vraiment très très réfractaire à cette idée-là. J'avais vécu un petit peu mes études comme quelque chose d'astreignant, de laborieux. Je trouvais que la fac, c'était un petit peu un carcan dans lequel je me sentais un petit peu étouffée. Donc j'avais qu'une seule envie, c'était d'en partir. Et puis finalement, j'y suis restée. Je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une prépa médicale et du jour au lendemain, qui m'a proposé effectivement ce travail-là. Et ce qui est très très intéressant, c'est que je me suis mise à enseigner l'éthique médicale, alors que c'était pas du tout quelque chose, une question sur laquelle j'étais spécialiste, pardon. Et en fait, c'est quelque chose qui a énormément donné sens pour moi à la notion de philosophie. Et là, j'ai compris que la philosophie, elle se pensait vraiment dans la transdisciplinarité. Et au niveau de la médecine, ça fait vraiment sens.
Alors, il se trouve qu'on n'en est pas à notre premier coup d'essai. Là, je fais une référence clin d'œil à une radio qu'on avait inventée quand on était toute jeune. Et je vais en taire le contenu, ne t'inquiète pas. Maud, est-ce que tu crois qu'on a changé depuis cette époque ? Qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui a changé selon toi ?
Alors, changer, ce serait oui dans l'idée de « on a évolué ». Ce qui est vraiment très beau, je pense, pour notre amitié, c'est que oui, on a évolué conjointement. On a appris l'une de l'autre. On a évolué donc ensemble. Et ce qui fait qu'on n'a pas pris des chemins qui se sont séparés. Et ce qui est le ciment pour le coup de notre amitié, je pense.
Ça me fait penser à un livre qui vient de sortir d'ailleurs de Charles Pépin, La rencontre, une philosophie. Dans ce livre, il parle de la rencontre en amitié, en amour ou dans la vie professionnelle par exemple. Pour lui, la rencontre nous fait sortir de nous-mêmes. Elle nous transforme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Complètement. Alors pour moi, ça rejoindrait dans les besoins fondamentaux. On fait souvent référence à Virginia Anderson. Donc le 14e besoin fondamental de Virginia Anderson, c'est la capacité à évoluer et à se transcender grâce à l'autre en fait. Donc clairement, la rencontre, c'est une manière de se rencontrer soi-même. La rencontre avec autrui, c'est une façon de se rencontrer soi-même.
Aujourd'hui, je t'ai proposé qu'on se retrouve dans un lieu qui t'évoque intimement la notion de changement. Et tu avais choisi un parc dans le quartier de Montplaisir à Lyon. Mais malheureusement, il pleut des cordes dehors, donc on est sagement à l'intérieur. Je crois que, pour revenir à ce parc, je crois que tu lui as trouvé un petit surnom.
C'est un parc dans lequel j'ai l'habitude de venir avec une très bonne amie depuis des années et des années, dans lequel on a eu des grandes discussions qui ont changé, je pense, partiellement nos vies, qui nous ont permis d'évoluer, encore une fois. Donc elle, par exemple, elle est devenue infirmière. On lui a trouvé ce surnom de Jardin des rêves suspendus. C'est un endroit, une petite bulle un peu hors du temps, pour le coup.
Un peu poétique aussi. Alors pour revenir à cette notion de kairos dont tu parlais tout à l'heure, pour expliciter un petit peu, le kairos, c'est l'occasion, l'opportunité à saisir quand elle passe. On peut peut-être ici faire référence à l'éthique Nicomaque d'Aristote qui parle de la prudence, de la phronesis en grec, qui permet de faire des choix éclairés dans une situation de kairos, c'est-à-dire à un instant T. Donc c'est un moment ponctuel qui ne se prévoit pas. Le kairos, c'est un peu le bon acte au bon moment en fait. À la lumière de ton expérience, justement, dont tu parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut reconnaître le kairos? Comment est-ce qu'on peut le saisir, lui qui est si fugace et qui réclame peut-être de l'intuition pour être reconnu?
Finalement, je pense que c'est ce que tu viens de dire. C'est une part d'intuition. C'est la chose qu'on n'avait pas prévue. Alors, pour reprendre un petit peu les termes de Vladimir Jankélévitch, avant, il est trop tôt et après, il est trop tard. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient se présenter, qui peut être parfois un peu effrayant. Pour ce kairos-là, notamment, j'avais jamais enseigné, je me retrouve face à une classe de 150 étudiants. Et en même temps, une sorte d'instinct ou d'intuition très profonde qui nous conduit à accepter et à ouvrir les bras aux belles circonstances de l'existence.
Dans le domaine médical, puisque c'est ta spécialité, on parle aussi de kairos. C'est l'instant critique où une maladie évolue vers une guérison ou vers la mort, par exemple. Ce moment où l'intervention du médecin est décisive, c'est quelque chose que tu abordes avec tes étudiants, ce moment de décision éthique, parfois dans des conditions d'urgence médicale d'ailleurs?
C'est effectivement une question qu'on aborde avec les étudiants, alors pas sous la dénomination de kairos, hein, on n'est pas dans ce type de dynamique-là. En revanche, on va effectivement aborder cette question de à quel moment est-ce que on intervient et surtout à quel moment est-ce que on n'intervient plus, en tout cas dans le sens du curatif. Donc on a souvent ce questionnement du point de bascule, à quel moment est-ce qu'il est encore raisonnable de continuer à tenter des soins curatifs et à quel moment finalement ça deviendrait de l'acharnement thérapeutique. Ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pas objectif, hein, c'est quelque chose qui est fondamentalement subjectif et comme j'essaye de l'expliquer à mes étudiants, il y a une marge qu'ils vont retrouver au niveau des stages en fonction des services dans lesquels ils sont, où il y a des praticiens qui, de manière très collégiale, vont estimer qu'on ne bascule pas dans l'acharnement thérapeutique si on continue, alors que dans d'autres services, on arrêtera bien avant. Donc il y a quelque chose aussi qui est fondamentalement de l'ordre de l'interprétation et peut-être nous conduit à nous demander qu'est-ce que c'est qu'une vie digne, finalement.
Oui, donc saisir le kairos, ça revient à dire prendre la décision ni trop tôt ni trop tard, en quelque sorte. En parlant de décision éthique, peut-être que c'est l'occasion de nous éclairer sur un point en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui fait la différence entre morale et éthique?
Alors, c'est une bonne question, qui est en plus très complexe pour le coup. La morale, elle a pour vocation d'être universelle, c'est-à-dire d'être valable de tout temps, en tout lieu. Et elle va se déployer sous deux choses. Elle va être proscriptive. Donc je proscris, j'interdis, tu ne dois pas. Hein. Et puis elle va être prescriptive. Donc je t'invite plus que fortement à faire une action. Donc dans les deux cas, finalement, on va être sous la question de la contrainte. L'éthique, elle a plutôt vocation à être dans l'analyse de problématiques extrêmement complexes qui vont se penser sous la forme de dilemmes. L'éthique, elle est fluctuante, hein. Elle va être conditionnée par plein de facteurs qui vont être des facteurs culturels, qui vont être des facteurs sociaux, qui vont être des facteurs conceptuels, religieux, peu importe. Et on va toujours prendre une décision éthique qui va être valable ici et maintenant. C'est au regard des circonstances que je vais apprécier effectivement une décision éthique en sachant qu'elle va toujours être perfectible. Donc l'éthique, ça va se déployer sous quatre grandes questions. Qu'est-ce que je sais par rapport à une situation donnée? Qu'est-ce que je peux faire pour tenter de remédier à cette situation? Qu'est-ce que je veux faire? Donc la question de la volonté. Et qu'est-ce que je dois faire? Et la question du devoir ici se pose. La problématique étant qu'à chaque fois que j'agis, je vais donc faire évoluer les choses, les circonstances, qui fait que derrière, il va falloir que je réorganise les choses pour toujours tenter de parfaire. Puisque quand on va prendre une décision, elle va avoir des tenants très positifs. Et puis, il y aura potentiellement aussi des dérives qu'on n'aurait pas pu forcément prédire à l'avance. Donc, ça renvoie un petit peu à un concept qui s'appelle la route d'Heming, hein. Plan, do, check, act. Donc je planifie une action, je la fais, je vérifie et ensuite je réagis de nouveau. Et c'est une roue qui ne cesse jamais de tourner.
Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça pourrait être une question d'éthique, par exemple ? Quelque chose de très concret ?
Ça peut être une question qui porterait, par exemple, sur le mensonge. Est-ce qu'il existe des mensonges qui sont préférables à la vérité ? Vladimir Jankélévitch va faire un petit peu d'ailleurs une critique dans ce sens-là de la morale en reprenant notamment des penseurs comme Kant qui vont dire que dans toutes circonstances il n'est pas tolérable de mentir. Vladimir Jankélévitch va répondre là-dessus dans une interview où il va dire oui mais si la Gestapo vient frapper à ma porte et me demande si je cache des juifs chez moi et que je dis oui parce que c'est la vérité, qu'est-ce que je suis ? En fait je suis un gredin. Il dit qu'il y a des choses qui dépassent effectivement ce concept de morale et que l'éthique, dans une certaine mesure, elle embrasse aussi la question de l'amour. L'amour pour l'autre, l'amour que l'on se doit, l'amour avec un grand A, qui passe aussi par la question du respect. Donc dans la vie de tous les jours, évidemment, le mensonge, c'est une question fondamentale. Est-ce que parfois, il est préférable de ne pas dire la vérité, de la taire ? Et si oui, qu'est-ce que j'engage ? Et donc on serait éventuellement amené à faire la distinction entre l'éthique de conviction ici et l'éthique de responsabilité.
Maud, il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on s'étende un peu plus encore. Dans le second épisode de cet instant philo, nous avions évoqué l'expression « réussir à donner le change » avec le pop philosophe Gilles Verviche. Et avec toi aujourd'hui, je voudrais interroger la formule suivante « je me sens étranger ou étrangère à moi-même ». Alors c'est quoi l'enjeu selon toi autour de cette expression ? Comment toi tu l'aborderais pour comprendre ce qui se joue ici « je me sens étranger à moi-même » ? Est-ce que c'est par exemple « je ne me reconnais pas » ou « je ne me reconnais plus » ?
Ça pourrait être ça. Je pense que, comme on va s'étendre un petit peu dessus, en préambule, ce qui serait vraiment pertinent à mon sens de développer, ce serait de se demander qu'est-ce que cette affirmation va susciter en nous, en fait. Quand je dis « je me sens étranger à moi-même », je me rends bien compte que c'est pas une affirmation qui est neutre. C'est une affirmation qui est quand même connotée, souvent plutôt péjorativement, faut le dire. Alors pourquoi péjorativement ? Parce que on pourrait dire en premier lieu que elle va susciter en nous une forme d'inquiétude. Si je me sens étranger à moi-même, ça veut dire que il existe en moi un espace insaisissable que j'aurais beau effectivement essayer de grappiller ou d'appréhender, finalement il m'échappera toujours quelque part, il me filera toujours un petit peu entre les doigts. Et ça se voit beaucoup quand on est dans une dynamique d'introspection, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné je vais avoir une réaction impulsive négative par rapport à quelque chose alors que le contexte ne se prête pas à une réaction aussi vive. Donc je vais m'interroger, essayer de retrouver finalement la genèse de ma réaction. Et à ce moment-là, quand je vais commencer à avoir une réponse, vont jaillir mille autres questionnements, ce qui fait que c'est une source qui est finalement intarissable. Donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'inquiétude ici, puisque ce que je ne connais pas de moi, c'est quelque chose qui va m'échapper et qui peut éventuellement échapper au contrôle. On reviendra sur des expressions du type « je me sens hors de moi », à comprendre « en dehors de moi », ce qui sera intéressant quand on s'intéresse à l'étymologie du mot étranger, pour le coup. Il y a un espace d'inquiétude, ça c'est la première chose. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose qui en moi va un petit peu s'insurger, être en colère dans ce paradoxe, c'est-à-dire que je suis moi, je suis en moi, à l'intérieur de moi, et pourtant il y a quelque chose qui m'échappe. On est toujours à la recherche du coup d'une sorte de conquête, d'essayer d'avoir une lecture exhaustive de soi-même. Et si on sort juste du lien de soi à soi-même, et que l'on regarde effectivement sur le décryptage plutôt de l'humanité en général, on voit bien qu'on est à la recherche d'explications, notamment via la génétique, par exemple. Donc on est vraiment dans l'idée de décoder des choses de façon très approfondie. Après, la problématique de l'appréhension, parce qu'on n'a pas justement cette maîtrise de soi-même, c'est déjà oublier que finalement, on est en perpétuelle évolution. Penser qu'on se connaîtrait parfaitement, ce serait justement penser dans quelque chose qui serait très fixe, très immobile, alors que à chaque seconde, à chaque minute, on est toujours en perpétuelle évolution. Donc c'est peut-être réfléchir dans un mauvais contexte. Et puis c'est important aussi de se rappeler que ça va être cette part un petit peu insaisissable qui va s'inscrire dans la définition même de l'humanité. Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus beau en nous, à savoir que je ne peux pas devenir un objet de connaissance. Donc je ne peux pas être réifié, je ne peux pas être placé au statut d'objet. Ce qui fait que dans cet interstice où je ne me connais pas, il y a aussi une part de moi qui est un espace de liberté très très grand. Alors c'est un petit peu dommage effectivement d'avoir peur de cette liberté, nous qui la chérissons autant.
Alors tu l'as dit, on en conviendra, c'est une expression plutôt négative, je me sens étranger à moi-même. Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi la voir autrement? Je pense au morceau de Cire, alors ça va te rappeler peut-être quelques souvenirs de fac, au morceau de Cire décrit par René Descartes dans les Méditations métaphysiques. Lorsque la cire d'une bougie fond, sa transformation est vive, visible, alors on en déduit que ses qualités sont éphémères, versatiles. Mais elle a beau fondre, la cire reste cire. C'est toujours la même cire, alors que ses qualités sensibles ont changé, en résumé. Et là où c'est plutôt positif, me semble-t-il, c'est que ce qui fait sa force, c'est cette plasticité, justement, le fait de pouvoir devenir autre. Est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes nous-mêmes suffisamment plastiques et souples pour pouvoir changer, c'est-à-dire se transformer sans casser?
Alors, c'est quelque chose qui va me faire penser forcément à la citation qui est très connue de Lavoisier. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », quelque chose qu'il a a priori emprunté à Anaxagore, un pré-socratique. Effectivement, qu'il faut de la plasticité pour pouvoir supporter les crises, par exemple, qu'on va rencontrer. Donc cette plasticité, elle est fondamentale pour survivre. C'est-à-dire que si on n'a pas cette possibilité de se transformer sans casser, d'évoluer sans casser, face à la crise, on ne se remettra pas, on ne pourra pas faire preuve de résilience.
Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, le roseau et le chêne. Donc le roseau qui ploie et le chêne qui casse. Maud, quand je t'ai proposé cette interview, je t'ai demandé spontanément à quoi te faisait penser « Je suis étranger à moi-même » et tu m'as répondu que ça te faisait penser à ce livre de Paul Ricoeur, « Soi-même comme un autre ». Alors j'ai fait quelques recherches depuis et Paul Ricoeur, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que c'est un philosophe qui a vécu de 1913 à 2005 et pour la petite histoire, Emmanuel Macron a été son assistant éditorial, notamment pour la finalisation de son ouvrage « La mémoire, l'histoire et l'oubli ». Paul Ricoeur était un petit peu son maître à penser apparemment. En tout cas, ce livre dont tu as fait mention, « Soi-même comme un autre », ce livre est paru, lui, en 1990 et on va écouter, si tu veux bien, ensemble un extrait d'une interview menée par Katharina von Bülow qui a été diffusée sur France Culture en 1993. On l'écoute.
J'ai construit Espace soi-même comme un autre autour de quatre questions, qui sont toutes des questions en qui. Et vous remarquez d'ailleurs que le qui est un pronom interrogatif qui n'est ni masculin ni féminin.
Tout à fait.
Et c'est la question qui parle. Alors, c'est tout le problème du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet parlant? Bon. Puis après cela, qui agit? C'est-à-dire qui est l'auteur de ses propres actes, qui est capable d'initiative, qui est capable d'intervenir dans le monde, dans le cours des choses, etc. Qui raconte sa propre histoire ou l'histoire des autres et par conséquent construit à travers cela ce que j'ai appelé son identité narrative. Oui. Et puis après cela, la question morale, qui est responsable, à qui peut-on imputer des actes permis ou défendus.
Ce qu'on entend là, c'est que le livre s'articule autour de quatre questions. Qui parle, qui agit, qui raconte et qui est responsable? Quel lien est-ce que toi tu ferais avec soi-même comme un autre et je me sens étranger à moi-même?
Du coup, Paul Ricoeur va mettre en exergue deux choses. Il y a ce qu'il va appeler effectivement la même-té, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est permanent. Et puis l'ipséité, qui va plutôt être comment je vais me présenter à l'autre, quelle va être la volonté que je vais mettre dans une forme de permanence. Et du coup, l'identité narrative, ce serait un petit peu une dialectique entre ces deux pôles qui sont complémentaires. Hein. L'ipséité et la même-té ne s'opposent pas, ce sont deux pôles complémentaires dans la pensée de Paul Ricoeur. Alors effectivement, c'est déjà un petit peu contenu dans le titre de l'ouvrage, hein, « Soi-même comme un autre », c'est-à-dire qu'il y a la notion d'altérité qui apparaît. Un autre moi, un autre que moi, c'est une vraie question qui va se poser. On était sur la notion d'évolution ou de transformation. Donc effectivement, alors que j'évolue, et que je n'ai pas toujours forcément conscience que j'évolue, hein, c'est aussi avec du recul et toujours a posteriori que j'ai une prise de conscience sur mon évolution. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce qui est permanent? Alors, ce qui est sûr, c'est que je peux pas me résumer à un socle qui ne bouge pas, à quelque chose qui serait totalement permanent, parce que sinon je réponds à la question « qu'est-ce que je suis ?» et pas à la question « qui est-ce que je suis ?» Donc, qu'est-ce que je suis? Je suis quelqu'un, par exemple, de gentil, de généreux, de jovial, de voilà. Mais cette qualité intrinsèque à ma personne, c'est une qualité qui est partagée par beaucoup d'autres personnes. Donc, ça ne crée pas ma spécificité. Le qui est-ce que je suis va donc se construire dans la question de l'identité narrative, qui est un discours qui n'est pas objectif, qui est un discours qui est empreint d'une subjectivité profonde, et on va s'inventer, se réinventer en permanence. Et parfois, effectivement, on va se retrouver en décalage entre des choses que l'on connaît de soi, et puis des choses que l'on va mettre en action et qui parfois ne nous ressemblent pas, dans lesquelles on a l'impression qu'on ne se reconnaît pas.
Je vois un autre lien entre soi-même comme un autre et je me sens étranger à moi-même, et c'est presque un lien sémantique. C'est la question du se, S-E, qu'on trouve dans soi-même. Pour résumer un petit peu la pensée de Ricoeur dans ce livre, on pourrait dire qu'il réussit à concilier le moi et l'autre en pensant le soi, justement. Soi, c'est le se qu'on entend dans soi-même, et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est parce qu'on quitte une vision peut-être un peu égocentrée du jeu, comme celle de René Descartes, par exemple, avec le fameux « je pense donc je suis », pour aller vers le soi, qui est plus modeste et qui s'ouvre à l'altérité, à l'autre, comme tu l'as dit. C'est ici qu'on retrouve les questions de morale et d'éthique qui te sont chères, parce que Ricoeur dépasse ce qu'on pourrait appeler une éthique individuelle, en quelque sorte, ce qui me semble bon, la visée du bien selon moi, et quelque chose comme une morale fondée sur des principes intransigeants, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple « tu ne dois pas ». Est-ce que toi, tu partages cette vision selon laquelle le « se », S-E, fait le lien entre le « moi » et l'autre ?
Alors oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez Rimbaud avec le « je est un autre ». Chez Paul Ricoeur, on va noter notamment une prévalence de l'éthique quand même sur la morale. Pour résumer un petit peu la pensée de Paul Ricoeur, alors là, c'est pas une citation exacte, hein, mais je vais un peu paraphraser ce qu'il dit. Pour lui, l'éthique, ce serait la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Donc, il y a vraiment l'idée, effectivement, qu'on va sortir de quelque chose qui est purement égocentrique. La visée de la vie bonne, dans la notion de visée, on va retrouver la question de l'intention. C'est pour ça, peut-être, qu'il y aura chez lui une prévalence de l'éthique sur la morale, puisque dans la visée éthique, l'intention est toujours bonne. Alors que dans la question de la morale, je peux faire une action morale qui aura des conséquences vertueuses, mais pour autant, est-ce que le moteur qui m'anime est forcément vertueux ? Est-ce que je ne suis pas animée par un mobile qui serait égoïste ? Il est possible que je fasse une bonne action parce que je veux obtenir des privilèges, ou alors parce que j'ai peur d'une sanction, et non pas pour quelque chose qui serait profondément altruiste. Donc effectivement, dans la question de l'éthique chez Paul Ricoeur, on va vraiment être dans la perspective d'une bonne intention. Donc la visée de la vie bonne, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne ? Avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et là, Paul Ricoeur va notamment reprendre deux choses, la notion d'égalité et la notion d'équité. Donc l'égalité, c'est chacun une part équivalente, et la notion d'équité, c'est chacun selon ses besoins, selon ce qu'il crée au niveau de la société, ce qu'il va apporter à la société. Donc on va avoir ces deux dynamiques, la notion d'équité et d'égalité, qui vont se juxtaposer dans sa perspective de l'éthique.
Alors on va laisser un petit peu Paul Ricoeur derrière nous. Qu'est-ce que nous dit d'autre l'expression « je me sens étranger à moi-même » ? Quels autres liens est-ce que tu fais avec la notion de changement dont on parlait ici sur les déviations ?
Déjà, ce qui me semblait important d'exploiter quand même, c'était cette fameuse racine étymologique du mot étranger, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, du latin « extraneus », qui signifie, entre autres choses, du dehors ou donc de l'extérieur. Ça va de nouveau faire le lien avec la question de l'identité. Puisqu'effectivement, quand on réfléchit à la question de l'identité, on voit que la participation d'autrui, que ce soit le macrocosme sociétal, hein, ou le microcosme familial par exemple, la participation d'autrui, elle est énorme, hein, sur la question de l'identité. Dès le commencement de ma vie, ou même parfois avant de naître, on m'a déjà attribué une identité. Aujourd'hui, avec les échographies, par exemple, on peut déterminer le sexe de l'enfant avant sa naissance. Hein. Si les parents le souhaitent, ils peuvent en avoir connaissance. On va choisir un prénom, il y aura un nom de famille. Tout ça, ce sont des choses que je ne choisis pas et qui vont m'être attribuées et qui sont d'une certaine manière un petit peu liberticides. Je suis déjà conditionnée par la vision d'autrui, placée dans des cases, ce que Jean-Paul Sartre va appeler donc des artefacts. Et ces cases-là, en tant que telles, elles sont pas neutres. Par exemple, être née femme aujourd'hui, il y a une vraie connotation. La société va attendre de nous en tant que femmes que on développe notre féminité d'une certaine manière. Donc ces cases-là ne sont pas neutres. Donc ça renvoie effectivement beaucoup à la question du coup de l'identité. La notion du dehors, en fait, elle va se retrouver bien sûr dans le fait que cette identité, elle va se construire au contact de l'autre. Et parfois, il va y avoir une sorte de décalage entre ce que je perçois de moi et ce que la société dit de moi, ou ce qu'elle pense de moi. Là, je vais reprendre un petit peu les propos d'Alexandre Jolien, philosophe, qui souffre d'athétose. Ce sont des mouvements brusques du corps qui sont non contrôlés. Cette situation de handicap provient du fait qu'au moment de sa naissance, le cordon ombilical s'est entouré autour de son cou, ce qui fait qu'il a été privé d'oxygène. Alors, ce qu'il va développer, justement, dans plusieurs de ses ouvrages, hein, parce que toute sa philosophie est quand même une philosophie, une vraie réflexion autour de la question du handicap et de la perception de l'autre au niveau du handicap. Et dans un article qu'il avait donné pour Philosophie Magazine, qui s'intitule « Handicap, vous me prenez pour un débile », il va faire justement le lien entre l'image qu'autrui renvoie et ce qu'il perçoit de lui, notamment autour de la question du bonheur. Il dit « c'est pas facile de se sentir heureux et d'être dans une vraie quête du bonheur quand effectivement le regard que l'autre pose sur moi me renvoie au rang de malheureux, hein, là je reprends ces termes, me renvoie directement au rang de malheureux, alors que lui est décrit comme étant le philosophe de la joie, donc il se sent heureux, hein, il ressent effectivement, il est perpétuellement en quête du bonheur, et en plus c'est un philosophe qui est très spirituel aussi, et en même temps cette image très péjorative que la société lui renvoie de, alors il le décrit comme, dans ces termes-là, hein, de pauvre handicapé, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il le ressent. Et ce décalage fait que ça va nuire justement à sa quête du bonheur.
Cette forme de décalage dont tu parles, on l'entend aussi quand on, avec des expressions très simples comme « je ne me reconnais plus », « ça ne me ressemble pas », »,« je ne suis plus moi-même », »,« je suis hors de moi », tu en as parlé aussi tout à l'heure. Ce sentiment de décalage, je pense qu'on l'a tous connu à un moment ou à un autre, c'est un petit peu l'idée de se perdre soi-même. Ça me fait penser d'ailleurs au fou, qui est celui qui n'a plus la maîtrise de soi, en quelque sorte.
Se perdre soi-même, c'est une vraie question. Est-ce que je peux vraiment me perdre? Est-ce que je peux être, par exemple, hors de moi, hein, comme on l'a dit, on le retrouve dans l'expression « je suis hors de moi », ce qui signifie « en dehors de moi ». Est-ce que je peux vraiment être hors de moi, ou est-ce que c'est une partie de moi qui était là en puissance, et que bah, des phénomènes extérieurs, quand je vais à leur rencontre, vont à un moment donné faire transparaître? Est-ce que finalement, c'est pas une révélation? Ce décalage serait une révélation. Alors quand on dit « je me reconnais plus », alors c'est souvent quelque chose de très péjoratif. Hein, pour le coup, ne plus se reconnaître, c'est rarement pour des choses positives, c'est plutôt pour des choses négatives. Ce serait un petit peu le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on va avoir une réaction, peut-être à un moment donné démesurée, parce que c'est l'effet cocotte-minute, hein, donc on va exploser. Et à ce moment-là, on ne va plus se reconnaître. Je vais faire quelque chose qui va échapper à mon contrôle, à ma maîtrise, hein, qui va être en dehors de ma raison, et qui va me sembler complètement en marge ou en décalage avec la personne que je pensais être. Donc ce moment où je ne me reconnais plus, c'est peut-être le moment où je suis en train, bah, justement, de me rencontrer sous d'autres aspects, pas toujours valorisants, mais qui font autant partie de moi que ce que je connaissais, hein. Ils couvaient en puissance, en fait. Ils attendaient à être révélés. Alors tout ça, ça me fait aussi penser à des expressions du type « j'ai préféré ne pas intervenir » ou « j'ai préféré ne pas faire quelque chose parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend couramment, j'ai préféré rien faire, hein, j'étais dans la fuite parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable. Donc c'est souvent dans des moments de confrontation. Est-ce que cette phrase, elle a du sens? Est-ce qu'elle est sincère? Il suffit d'un tout petit peu de déconstruction pour savoir que non. Si je ne suis pas allée à la confrontation, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce dont j'étais capable, c'est parce que finalement, je savais très bien ce dont j'étais capable, et du coup, j'avais peur de ce que j'aurais été amenée à pouvoir dire ou à pouvoir faire. Donc effectivement, toutes ces choses-là qui couvent en nous en puissance, parfois elles nous semblent en marge avec la personne que l'on est, mais il y a un vrai fil conducteur, et finalement ça nous renvoie aussi à cette expression du dramaturge Terence, hein, « je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Peut-être que finalement la meilleure connaissance de soi, elle passe aussi par une connaissance de ce qu'est l'humanité dans ses grandes lignes.
Maud, tu donnes régulièrement cours auprès d'étudiants dans le secteur du numérique sur les questions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et je pense que là, on peut faire facilement un lien entre être étranger à soi-même et la notion particulièrement contemporaine du transhumanisme. Ce qu'on appelle le transhumanisme ou hyperhumanisme aussi peut-être, c'est le fait de dépasser l'humain pour créer ce qu'on pourrait appeler un post-humain avec des capacités supérieures à celles des êtres actuels, tout simplement. Par exemple, le fait de ne plus mourir de vieillesse ou d'avoir des capacités intellectuelles ou des performances augmentées grâce à l'intelligence artificielle, notamment. Est-ce que tu penses qu'une humanité augmentée pourrait, in fine, nous rendre étrangers à nous-mêmes, par exemple? Est-ce que c'est le risque?
C'est une très très bonne question. Le transhumanisme, c'est vraiment le changement par excellence, puisque là, il s'agit d'une transformation telle qu'elle va nous pousser à renoncer à l'humanité telle qu'on la connaît. Donc là, dans l'étrangeté à soi-même et dans la perspective d'évolution, on est plus d'ailleurs sur la question d'une révolution que d'une évolution, et là, on est dans une notion de changement suprême. Je reviendrai juste sur le terme « humanité augmentée », qui est souvent ce qui est décrit effectivement pour le transhumanisme, donc on parle d'augmentation. Je vais préférer plutôt quelque chose encore de l'ordre de l'évolution, parce que augmentation, ça a une connotation améliorative. Donc quand je suis augmentée, ça veut dire que je suis une meilleure version de moi-même. Est-ce que je peux vraiment préjuger de ça? C'est un sujet qui est quand même susceptible de faire polémique ou de faire débat. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, et là je vais reprendre un petit peu les propos d'Anna Arendt hein, dans le prologue de La condition de l'homme moderne, cet homme futur que les savants produiront, nous disent-ils, en un siècle pas davantage, paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée, cadeau venu de nulle part, laïquement parlant, et qu'il veut, pour ainsi dire, échanger contre un ouvrage de ses propres mains. Je pense que la question de la révolte contre la condition humaine ici est très très importante. Il y a vraiment un cri, effectivement, contre l'aléa, qu'il soit génétique ou autre, hein, effectivement, et qui nous laisse peu d'espace, peu de marge pour être sur un terreau de liberté. Il y a vraiment cette idée que on veut se réinventer, peut-être au point, effectivement, d'être dans la question du post-humain. Le transhumanisme, c'est une traversée de l'humanisme qui va donner lieu, potentiellement, à une nouvelle espèce qui ne sera plus, à proprement parler, un être humain. Et ça, ça questionne énormément les enjeux éthiques et bioéthiques. Une espèce qui est supposée être meilleure que nous, entre guillemets, hein, pour le meilleur, c'est encore une fois, c'est un sujet à débat, et qui, pour ainsi dire, signerait la fin de l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Donc oui, il y a un risque, effectivement, il y a un risque de devenir étranger à soi-même au point de devenir étranger à l'humanité. Après, on pourrait aussi penser que, quelque part, il serait un petit peu dans la nature humaine d'évoluer. Là, je vais reprendre juste les propos de Gilbert Autois dans Species Technica, où il nous dit « L'espèce humaine a, dès le départ, été une espèce technique, c'est-à-dire artificieuse, qui inlassablement s'invente et se réinvente elle-même. Donc, quelque part, depuis toujours, l'homme cherche à se transcender. Donc, le post-humanisme, ce serait vraiment, effectivement, se transcender au point de dépasser la condition humaine. »
Alors j'ai tiré le passage suivant d'un article que tu as écrit sur le réseau LinkedIn. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît ?
Alors avec plaisir. C'est un petit peu étrange hein, de lire quelque chose qu'on a écrit. Il ne s'agit pas uniquement de savoir ce qui est techniquement réalisable, entre parenthèses ou le sera, car la technique en elle-même est neutre et l'évolution de nos compétences est exponentielle. Ce qui se doit d'être l'objet central de nos préoccupations, c'est le sens dans lequel nous souhaitons employer nos connaissances. Et notre responsabilité est ici incommensurable, car les décisions que nous prenons aujourd'hui ne nous impliquent pas uniquement nous, ici et maintenant, elles impacteront le monde de demain. Alors tâchons que la préservation de l'humanité soit toujours notre destination, et pour ce faire, nous ne pourrons nous départir de l'éthique.
Nous ne pourrons nous départir de l'éthique. Alors aujourd'hui, on dit que l'humain qui vivra 1000 ans est déjà né. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quelle manière l'éthique et plus généralement la réflexion philosophique sont utiles, voire nécessaires, pour accompagner le progrès technologique, l'innovation, en un mot, le futur ?
L'éthique, elle a une visée prédictive. Le but, c'est... Quand une nouvelle technologie ou une nouvelle technique émerge, c'est de saisir effectivement ce qui va être positif par rapport à cette technologie, à cette technique, et ne pas oublier que la technologie ou la technique sont quand même supposées être au service de l'homme et non pas jouer en sa défaveur. Et le but de l'éthique, dans sa visée prédictive, c'est essayer de limiter effectivement les dérives, tout en sachant que des dérives, il y en aura toujours. Hein. C'est pas possible de complètement les exclure, c'est juste impossible, puisqu'il se produira toujours des événements qui vont échapper à nos capacités d'anticipation, tout simplement. Alors après, il existe des choses, là je vais citer par exemple la loi de Gabor, qui dit que toute chose finalement qui peut être réalisable, donc tout ce qui est techniquement réalisable, finira par se faire. Et donc on envisagerait l'éthique ici que comme un moyen de nous laisser le temps de l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent inacceptables, et puis l'éthique ce serait le moyen de nous faire passer le temps en attendant que ça nous paraisse pertinent et acceptable. Alors c'est une vision de l'éthique qui peut s'entendre. J'espère que ça n'est pas le cas. J'espère que ça n'est pas le cas, puisque ce serait un petit peu dommage. Et puis, ce serait oublier que le fondement de l'éthique, c'est effectivement toujours privilégier l'humain, quelles que soient les choses que l'on réalise.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets et simples de problématiques que posent les intelligences artificielles, par exemple, aujourd'hui ?
La vraie problématique au niveau de l'intelligence artificielle, elle réside pas forcément dans l'intelligence artificielle en tant que telle, mais dans la vision fantasmée que l'on a de l'intelligence artificielle. On la voit comme quelque chose qui va nous supplanter, d'ultra performant, qui peut même potentiellement échapper à tout contrôle et qui va finir par nous dominer. Ça, c'est une vision fantasmée de l'intelligence artificielle. Derrière l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes, des codes, hein, qui sont produits par des êtres humains, qui vont mettre en exergue un socle de pensée qui est très imprégné d'une dimension culturelle. Pour illustrer ça, il y avait quelque chose qui avait fait polémique, qui venait donc d'Amazon. Amazon avait créé une intelligence artificielle pour pouvoir faire un premier stade de recrutement. Donc au sein d'Amazon, on utilisait l'intelligence artificielle pour trier, faire un premier tri des CV. Et on s'est rendu compte que très rapidement, l'intelligence artificielle est devenue raciste, est devenue quelque part misogyne, c'est pas forcément le bon mot.
Discriminatoire en tout cas,
voilà. Donc on a crié au scandale contre l'intelligence artificielle, mais la problématique, c'est que ça a surtout mis en lumière la politique de recrutement d'Amazon, qui à ce moment-là, en tout cas sur les 10 dernières années, était par essence de toute façon discriminatoire. C'est pas l'intelligence artificielle qui a créé la discrimination, en fait, elle l'a juste mise en lumière.
Et à l'inverse, quel genre de perspective désirable promet l'intelligence artificielle, par exemple ?
Au service de la médecine. L'intelligence artificielle, elle va être un outil fondamental et extrêmement pertinent, notamment pour les questions de dépistage. On va être à même de repérer, par exemple, des tumeurs à un stade très précoce, en termes de probabilité, identifier si elles sont malignes ou bénignes, ce qui va permettre d'être un sérieux appui pour les médecins et notamment là dans ce contexte-là pour les radiologues. C'est quelque chose qui, au service de la médecine, va être extrêmement pertinent, au service de la génétique aussi, extrêmement pertinent. Après, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et de toute façon, l'intelligence artificielle ne remplacera d'aucune manière le savoir et l'expertise humaine.
Alors rêvons un peu, est-ce que tu penses que des virus tels que le Covid-19 ne seront plus des menaces pour les hyper-humains et les hyper-humaines que nous sommes amenés à devenir ?
Ah bah si on est dans la question du transhumanisme telle qu'elle est envisagée dans l'idéologie transhumaniste, effectivement, il s'agit de mettre fin à tout type de vulnérabilité autant que ce soit possible. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui sera à un moment donné atteignable ou pas ? Aujourd'hui, ça, c'est encore effectivement de la rêverie ou du fantasme une nouvelle fois. Mais dans l'idéologie transhumanisme, oui, il s'agit de couper court à toute dynamique de vulnérabilité humaine.
J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. On dirait une phrase tout droit sortie du futur. Est-ce que cette citation te rappelle quelque chose ?
Tu l'as très très bien choisie, c'est magnifique. C'est Le Petit Prince.
Oui, c'est tout à fait ça, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. En fait, j'aimerais terminer cet entretien avec ce livre parce que c'est un conte philosophique dont tu m'as souvent parlé et que tout le monde connaît d'ailleurs, et aussi parce que c'est une belle histoire d'amitié. Pourquoi est-ce que c'est un livre auquel tu tiens particulièrement ?
C'est un livre auquel je tiens plus que particulièrement. Je dirais que c'est peut-être aujourd'hui mon livre préféré, que je relis très régulièrement. Il me fascine parce que chaque lecture va me permettre d'avoir un éclairage supplémentaire. C'est un livre que je n'aurais jamais terminé de décortiquer, hein, même peut-être encore dans 30 ou 40 ans, je le relirai et je le re-relirai. Il a de très beau l'aspect poétique, où il va allier à la fois une philosophie très 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 profonde et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie et de la poésie, quoi.
Quelle est la morale de l'histoire, en fait ? Par exemple, quel changement intérieur expérimente le petit prince et l'aviateur, selon toi ?
Ce qui m'apparaît vraiment intéressant dans cet ouvrage-là, c'est à quel point la rencontre avec l'autre va donner du sens aux choses, en fait. Des choses qui nous paraissent complètement anodines et banales, parce qu'elles vont nous évoquer quelque chose qui nous rappellera une rencontre, une belle rencontre, une rencontre d'amitié ou une rencontre d'amour. Tout d'un coup, elles vont avoir un autre sens. Et là, je pense notamment à la rencontre du petit prince avec le renard, où à un moment donné, après l'avoir apprivoisé, parce que c'est toute la dynamique, hein, pour pouvoir apprendre à se connaître, il faut commencer par s'apprivoiser. Et puis le petit prince s'en va et le renard lui dit « Ah, bah, je pleurerai ». Et le petit prince lui dit « C'est de ta faute, parce que c'est toi qui as tenu à ce que je t'apprivoise ». Le renard lui répond « Oui, mais j'y gagne ». Alors le petit prince, il dit « Bah non, tu n'y gagnes rien ». Et le renard va répondre « Si, j'y gagne à cause de la couleur du blé ». Au tout début, le renard expliquait que le blé n'évoquait rien pour lui, ça n'avait pas d'utilité pour lui, mais les cheveux du petit prince lui rappelleraient effectivement la couleur du blé, et ça va donner sens à ça. Et c'est sur ce genre de choses-là, effectivement, sur la rencontre, à quel point elle va donner sens à quelque chose qui nous paraît trivial ou banal et qui va rendre la chose si particulière à nos yeux. Je trouve ça à la fois extrêmement profond d'un point de vue philosophique et puis magnifique d'un point de vue poétique.
Est-ce qu'il y a une citation en particulier qui t'émeut ou qui te porte dans la vie ?
Il y en a une que j'aime tout particulièrement, qui est vraiment à la fin de l'ouvrage. « Rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. »
Pour ma part, j'ajouterais celle-ci qui me semble parlante pour les auditeurs et auditrices des déviations et qui est aussi tirée du Petit Prince. « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » Maud Waron, merci beaucoup.
Merci infiniment à toi. J'étais tellement heureuse de partager ce moment de philosophie avec toi. Ça m'a comblé le cœur de joie qu'on puisse ensemble débattre un petit peu de philosophie. Ce que tu me fais faire, franchement.
C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu ? Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.